Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast sur la vie en général et toutes les questions qu'on peut se poser vis-à-vis de celle-ci. Et tout ce qu'on peut essayer de faire d'une manière plus ou moins adaptée et plus ou moins alambiquée pour l'améliorer au sens large. Voilà. Alors, de quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui ? Du rapport au perfectionnisme. Car oui, moi aussi, par le passé, mais c'est encore bien présent, j'ai été atteint de perfectionnite aiguë. Et pas la petite, celle qui pousse à remettre à plus tard un projet parce qu'il n'est pas encore parfait, pas encore comme il faut, pas encore au niveau de mes exigences ultimes, on va dire, et que ce projet peut mettre 2, 3, 4 ans à sortir de terre, et qu'au bout de 2, 3, 4 ans, ce projet n'est plus d'actualité parce que mes priorités ont changé, mes valeurs ont changé, aussi l'objectif professionnel a changé. Et ça peut, faire que souvent on met les ressources au mauvais endroit ou sur une suite de projets inaboutis. Et donc ce perfectionnisme, pour moi, il vient de deux choses principales. C'est la recherche d'un idéal. Et qui dit idéal dit bien sûr inatteignable. Et donc, vu qu'il est inatteignable, si on veut vraiment atteindre cet idéal, on ne finit jamais le projet. Ou si on accepte de le finir, on n'aura pas atteint l'idéal précité. Et donc, il y aura une frustration ou un goût de pas assez. Et donc, ça génère de la culpabilité de ne pas être capable de concrétiser le projet qu'on avait dans la tête. Bien sûr, ça rajoute une baisse d'estime de soi. Un petit « je suis nul parce que je n'y arrive pas ». Ça génère beaucoup de frustration. Et quand on a des projets sur le long terme qu'on n'arrive pas à finir, ça peut aussi provoquer pas mal de découragement et de démotivation. Et derrière tout ça, il y a une recherche de reconnaissance et une volonté de prouver sa valeur. Mais avec derrière un complexe, je dirais, de supériorité, qui est bien sûr basé sur un complexe d'infériorité. Le côté « je suis nul », mais je me sens tellement capable de choses énormes que j'ai envie de le prouver. Mais en n'arrivant pas à ces choses énormes, on se considère comme nul. Et donc ça fait un petit cercle vicieux de plus je me sens nul, plus j'ai envie de prouver que je suis grand, et donc plus je deviens perfectionniste. Voilà, on peut en arriver à ces extrêmes-là. Et donc, bien sûr, sans lâcher cette volonté de prouver au monde qu'on est génial, ou d'atteindre ce résultat démesuré, on n'en sort pas trop. Et les conséquences que je dirais néfastes de cette tendance à vouloir toujours en faire parfait, c'est que ça ne permet pas déjà l'essai, la tentative, ça ne permet pas l'échec non plus. Donc on peut en arriver même à un système où il faut tout faire du premier coup parfaitement. Ce qui peut mettre une sacrée pression. Pour ma part, je me suis rendu compte que l'apprentissage pour moi maintenant devenait difficile dans les domaines où je n'avais pas de facilité. Par exemple, sur le domaine physique, j'ai essayé de me mettre à la capoeira et au début, c'était une torture pour moi parce que j'étais face à mon incompétence et donc ça démolissait totalement la croyance que j'étais supérieur, que j'étais un dieu. Non, je ne suis pas compétent partout et j'ai des endroits où il faut que j'apprenne et où j'ai besoin d'accepter de pouvoir faire des erreurs et que tout ne soit pas parfait dès le départ. Et ça, ça a réveillé beaucoup de frustration. Et ça m'a fait descendre de mon piédestal, ce qui m'a fait le plus grand bien, ce qui m'a permis de lâcher en m'exerçant sur un domaine qui me plaît mais que je ne maîtrise pas. Ça m'a permis de lâcher mon perfectionnisme. Également dans les autres domaines où je me sens plus compétent. Et donc pour en revenir aux dégâts, entre guillemets, de ce perfectionnisme, déjà il y a la procrastination sur l'atteinte du résultat ou même sur le passage à l'action. Parce que il y a souvent tendance à vouloir mettre le niveau trop haut dans les objectifs qu'on veut atteindre. Il y a aussi la volonté de faire plus que demander, parfois. Et donc, logiquement, ça génère un épuisement, parce que si on veut tout faire nickel tout le temps, par exemple dans une entreprise, quand quelqu'un vous demande quelque chose, si vous passez 3-4 fois à vérifier que c'est parfait, à vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, vous passez deux fois plus de temps, même si vous êtes hyper rapide sur le début du travail. Et donc, même si vous n'y passez pas plus de temps, vous y mettez beaucoup plus d'attention et beaucoup plus d'énergie. Et donc, ça demande beaucoup plus de ressources pour arriver au même résultat que quelqu'un qui aurait eu moins de minutie et qui aurait accepté qu'il y ait une erreur peut-être minime. Et autre chose aussi, c'est que ça peut donner l'impression que les autres ne se donnent pas assez d'efforts et donc juger les autres et considérer que les autres ou sont incompétents ou sont nuls. Donc ça amplifie le côté je suis un surhomme et les autres sont médiocres. Et donc ça crée une distance avec les autres et ça crée aussi une difficulté à accepter l'autre tel qu'il est. Parce que d'une certaine manière, on s'accepte pas tel que l'on est, c'est-à-dire faillible, comme tout être humain. Et ça donne aussi l'impression que, paradoxalement, à l'inverse, les autres sont plus compétents parce qu'ils arrivent à en faire plus. Mais c'est logique qu'ils arrivent à en faire plus parce qu'ils s'en demandent moins. Ils sont moins exigeants sur chaque détail. Et donc, comment on peut essayer, je dirais, de déconstruire cette vision que le perfectionnisme, c'est la meilleure méthode pour arriver à un résultat et c'est ce qui nous permettra d'être reconnu et valorisé. Alors la clé, je dirais, pour tout ce que je vais dire par la suite, c'est accepter d'être médiocre. Qu'est-ce que je mets derrière médiocre? C'est-à-dire accepter de se contenter du minimum viable, du minimum requis, de ce qui est vraiment important. En gros, selon la loi de Pareto, on va dire le 80-20, les 20% de l'énergie qui font les 80% du résultat. C'est vrai qu'en étant perfectionniste, on a tendance à dire dès qu'on a fait l'essentiel, ah oui, mais c'est pas assez. Sauf que ça suffit. Et après, on passe 80% de temps en plus pour faire des choses qui sont accessoires. Et ça génère pas mal d'épuisement et pas mal d'incompréhension aussi dans les relations avec l'autre. Du style, ah, t'as pas encore fini. Bah non, je fais les détails. Je fais les chiots de mouche que personne ne verra, mais que moi je vois. Donc il faut aussi accepter que ce qui est important, surtout quand c'est un travail pour l'autre, que le résultat soit acceptable pour l'autre, mais pas pour soi. Et donc le premier des moyens pour contrer ce côté perfectionniste, c'est se focaliser sur les résultats, sur le pourquoi de la tâche, sur quel est le but. Si le but, c'est par exemple pour le podcast, moi, de diffuser un message, ce qui est important, c'est que ce message déjà existe. Voilà, parce que si je fais tout l'enrobage, mais que j'enregistre pas les épisodes, ça sert pas à grand-chose. Si j'ai fait un site web, si j'ai fait tout le côté design, tout le côté technique, tout le côté ciblage, tout le côté marketing, mais sans avoir enregistré un seul épisode, on va être clair, le podcast n'existe pas, même si tout est prêt. Pareil pour un site web. Si on crée un site web avec techniquement avec tout ce qu'il faut, mais qui n'est pas en ligne et qui n'a pas le contenu, il n'est pas créé, il n'existe pas. Et donc, il ne répond pas aux besoins. Le besoin, ce n'est pas d'avoir un site web en réalité. Le besoin derrière, c'est de diffuser une information, c'est de passer un message, c'est de, par exemple, vendre son activité, vendre des produits, diffuser des articles, etc. Ce n'est pas d'avoir un site web. Et surtout pas un site web parfait, parce que, sauf si vous êtes web designer, il n'a pas besoin d'être parfait. Et une phrase qui est bien pour ça, c'est la version 1 est toujours meilleure que la version 0. Et oui, mieux vaut quelque chose qui existe que quelque chose qui n'existe pas, ou alors qui n'existe que dans votre tête. Une autre méthode pour arriver à contrecarrer ce côté perfectionniste, c'est de se fixer des priorités dans un projet. En disant, oui, le projet, à terme, il doit ressembler à ça, mais quel est le minimum viable, la première étape, qui permettrait déjà de répondre aux besoins, par exemple diffuser un podcast, et donc quelles sont les étapes minimum pour arriver à un résultat satisfaisant pour répondre à ce besoin ou à cet objectif. Et là, ça permet d'y aller étape par étape et de ne pas vouloir avoir déjà, on va dire, une voiture totalement rutilante, tunée, avec tout ce qu'il faut, sans s'être occupé du moteur et des roues. Parce que la carrosserie, on va être clair, ça peut attendre. Si on a déjà toute la carlingue, toute la mécanique, et le volant pour pouvoir la conduire, ça ressemble à un kart, certes, mais au moins ça roule. Alors un autre moyen qui est assez efficace, c'est de se limiter dans le temps, de se fixer une date limite. C'est clair que pour beaucoup de personnes qui sont perfectionnistes, dans le monde du travail, dès qu'il y a une date limite, ou pareil pour des examens quand on est étudiant, là, au moins, il y a un résultat. Oui, peut-être pas parfait, mais au moins, le résultat est sorti. Il faut savoir qu'on a toujours tendance, quand on a une fenêtre de temps, à prendre toute cette fenêtre de temps pour faire quelque chose. Donc ce qui peut être intéressant quand on veut en plus être dans un côté assez efficace, productif et rapide, c'est d'avoir des fenêtres de temps assez courtes, sur des objectifs bien sûr réalisables dans ces temps-là, pour pouvoir atteindre des résultats rapides, et de manière ciblée. Parce que aussi derrière le côté perfectionniste, peut y avoir un côté à s'éparpiller sur tous les détails et à ne pas se concentrer sur l'essentiel, comme je disais tout à l'heure, le moteur et les roues pour une voiture. Et donc, en se fixant un délai, moi par exemple, de plus en plus, mes podcasts, j'ai envie de les finir avant 14h, pour pas avoir pour repousser ça plus tard, surtout que j'ai pas besoin d'énormément de temps pour les préparer, et que plus je repousse, plus je me dis que j'aurais dû y passer plus de temps, parce que là, en le faisant à la dernière minute, ça sera moins bon, et ce qui n'est pas toujours vrai. Des fois, c'est parce que je me suis laissé ma journée que j'arrive à avoir l'inspiration. Et à l'inverse, des fois, en me posant dès le matin, juste en prenant le temps de voir ce qui est là, j'arrive à être aussi efficace le soir. Donc aussi, derrière ce côté perfectionniste, il y a une croyance qu'il y a une bonne méthode, une bonne manière de faire, une manière plus efficace. Comme je disais hier sur le côté, une voie unique pour atteindre le résultat. Et un dernier moyen qui, lui, par contre, demande un peu plus d'avoir déjà pas mal, je dirais, érodé notre perfectionnisme, d'avoir déjà pas mal émoussé, c'est d'écouter son ressenti et de savoir quand ça suffit, quand c'est assez. Un exemple, c'est qu'une fois j'avais fait un rapport pour une évolution professionnelle, un rapport professionnel, et à force de le travailler, à force de l'écrire, je me suis rendu compte que l'avant-dernière version était meilleure que la dernière. Parce que la dernière, j'avais voulu faire mieux et j'avais déconstruit. Donc parfois, en se posant la question, est-ce que là, ça suffit? Est-ce que là, il y a besoin de plus? On peut arriver à s'arrêter. Mais c'est vrai qu'en tant que perfectionniste, au début, on pense qu'on peut toujours faire plus, on pense qu'on est Dieu, donc on peut toujours faire mieux. Et on ne pense pas qu'on a des limites. Donc on se dit, ah oui, mais si j'y passe plus de temps, si je mets plus d'efforts dessus, j'arriverai à faire mieux. Eh bien non, des fois on fout le bordel. Imaginez pour un gâteau, si on rajoute un ingrédient en plus, et qu'on en rajoute des tonnes, des tonnes, des tonnes. J'ai un exemple tout bête, quelqu'un nous a offert un mélange d'épices, qui semblait intéressant de prime abord, mais ils ont tellement mélangé des mélanges d'épices, que ça n'a plus de goût, ça, on pourrait dire, ah oui, en en mettant plus, ce sera mieux. Mais non, là, c'est pire, parce que c'est un gloubi-boulga. Et donc, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus l'essentiel, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a plus... En gros, il y a une perte de sens. Pourquoi ce mélange d'épices a été créé? Qu'est-ce qu'il apporte dans un plat? Et c'est un peu pareil pour le côté perfectionniste. Si on n'essaye de se focaliser sur les détails, de se focaliser sur tout ce qui n'est pas essentiel, on peut des fois perdre le sens, perdre ce qui est, je dirais même, l'âme de l'objectif ou du projet. Un exemple qui peut bien illustrer la situation, c'est par exemple de vouloir faire une pub pour pouvoir se rapprocher de ses potentiels clients et créer un sentiment de proximité, et à vouloir faire une pub tellement parfaite, visuellement tellement esthétique, que cela va créer une distance avec les spectateurs, et donc que ça n'atteindra pas l'objectif recherché. Ah oui, le perfectionniste sera content parce que le résultat sera parfait, mais il ne sera plus en phase avec le besoin initial. Et donc c'est ça qui peut être aussi la clé pour le perfectionniste, c'est de se dire mais quel est réellement le besoin ? Moi je l'ai beaucoup vu en informatique, c'est informatique qui est mon ancien métier, c'est à quel point on se focalisait sur l'outil et qu'on en oubliait la raison initiale du projet et qu'on se focalisait tellement sur la technique que l'outil pouvait même parfois devenir inutilisable. Alors, pour vos futurs projets, concentrez-vous sur ce qui est essentiel pour vous. Apprenez à mettre de côté ou dans un second temps ce qui peut être superflu ou moins prioritaire. Et vous verrez, vous arriverez à faire plus et vous serez plus satisfait, paradoxalement, du résultat et de ce que vous arriverez à réaliser. Parce que vous vous sentirez moins incompétent, paradoxalement, moins un imposteur, parce qu'il y a aussi ça derrière le perfectionnisme, il y a ce côté « je suis un imposteur », tout en me croyant Dieu. Et ça vous permettra aussi d'être plus tolérant vis-à-vis des autres, et je dirais même d'être plus aimable. Parce que vous aimerez plus, vous accepterez plus tel que vous êtes, et donc vous aimerez plus les autres et les accepterez plus tels qu'ils sont. Et ça permettra de mettre plus d'harmonie dans votre vie, ce que, je pense, ne vous déplaira pas. Et bien sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, et peut-être aussi de bonnes préparations de fêtes de fin d'année, que ce soit les cadeaux de Noël ou tout autre sujet de réjouissance, pour vos retrouvailles familiales ou amicales. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.